Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je vais aujourd'hui terminer, si Dieu veut, le chapitre 10 de Saint Marc. Et nous commencerons après un autre fichier qui contiendra la dernière partie de l'Évangile selon Saint Marc, des chapitres 11 à 16. Donc nous en sommes sur le polycopier des chapitres 6 à 10. Nous en sommes à la page 32, versets 46 à 52 du chapitre 10 de Saint Marc. Je vous relis ce passage. Ils vinrent ensuite à Jéricho. Et comme il partait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée l'aveugle, était assis sur le bord du chemin demandant l'aumône. Ayant appris que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier et à dire « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi ». Et beaucoup le menaçaient pour qu'il se tue, mais il criait bien plus fort « Fils de David, ayez pitié de moi ». Alors Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on l'appelât et ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Ayez bon courage, levez-vous, il vous appelle. » Ayant jeté son manteau, il vint en sautant vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» L'aveugle lui répondit « Rabboni, que je vois. » Et Jésus lui dit « Allez, votre foi vous a sauvé. » Et aussitôt il vit et il suivit Jésus sur le chemin. Ce miracle de l'aveugle, la guérison de l'aveugle de Jéricho, Bartimée l'aveugle, a une importance toute particulière. Parce qu'on voit ici le fruit de la prière. Notre Seigneur Jésus-Christ a toute une série de grâces qu'il garde pour nous. Mais ces grâces, elles sont conditionnelles dans bien des cas. Elles sont conditionnelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles dépendent de notre bonne volonté. Plus directement, elles dépendent du fait que nous demandions avec persévérance ces grâces au bon Dieu. Le bon Dieu a prévu de donner ses grâces, mais il a prévu de donner ses grâces à condition que nous les lui demandions. Et pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Mais souvent, les gens nous disent « Monsieur l'abbé, j'ai prié pour telle chose. » Puis je ne l'ai pas eu, donc j'ai arrêté de prier. Mais non. Ici, l'Évangile nous montre très bien qu'il faut persévérer dans la prière. La prière doit être persévérante. Et il faut aussi que cette prière soit selon la volonté du bon Dieu. Combien de fois, ça arrive régulièrement, au moment surtout des examens, des jeunes qui me téléphonent, « Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez prier pour les résultats de mon examen ?» J'ai un gros examen demain est-ce que vous pouvez prier pour que je l'aie cet examen? Je pose toujours la même question. Est-ce que vous avez travaillé pour réussir votre examen? Ben non, monsieur l'abbé, je n'ai pas fait grand-chose. Ben, vous ne l'aurez pas votre examen. Je dirais, même, il ne faut pas croire que le bon Dieu va faire un miracle sans une raison proportionnée. Il ne va pas vous donner votre examen si vous ne le méritez pas. Donc, il faut demander avec humilité. Et il faut toujours dire, mon Dieu, il faut toujours dire, oh bon Dieu, mon Dieu, s'il vous plaît, accordez-moi telle chose, si telle est votre volonté. Regardez Saint Paul. Saint Paul, trois fois, qui a demandé au bon Dieu, pourtant c'était Saint Paul, pas n'importe qui, hein. Et Saint Paul, trois fois, a demandé au bon Dieu d'être délivré d'un aiguillon dans la chair qu'il avait. C'est un exemple que je donne souvent. J'ordonne ici parce que c'est le sujet. Et qu'est-ce qu'a dit notre Seigneur ? Ma grâce vous suffit. Ma grâce vous suffit. Et donc, il ne faut pas prendre le bon Dieu comme une espèce de vache à lait qui systématiquement va accorder toutes les grâces matérielles qu'on demande. La plupart du temps, on demande des grâces matérielles. Il faut demander aussi des grâces spirituelles. Et ici encore, c'est une grâce matérielle qui est demandée. Il demande, que voulez-vous que je fasse ? Et l'aveugle va répondre, que je vois, Seigneur. Et tous les pères de l'Église expliquent que ce miracle a un symbole spirituel derrière. C'est-à-dire, c'est pas simplement que je vois avec les yeux de mon corps, mais aussi que je vois avec les yeux de mon âme, que mon âme soit délivrée des liens du péché. C'est ça que ça veut dire. Et on voit très bien que l'aveugle est obligé d'appeler notre Seigneur Jésus-Christ plusieurs fois. Il entend du bruit, il demande qui est là, on lui dit que c'est Jésus, le fils de David, et de suite il se met à crier, il se met sur son séant, il se met à crier, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Alors on le fait taire, et il continue, il insiste. Pourtant notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas sourd, il a entendu. Mais il criait plus fort, notre Seigneur va attendre que l'aveugle demande avec persévérance. Il demande encore, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et au bout d'un certain temps, Jésus qui voit qu'il y a là une manifestation profonde de la foi de cet aveugle, en la toute puissance divine de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas demander une guérison de ce genre à quelqu'un qui n'est pas Dieu, eh bien à ce moment-là, il ordonne qu'on l'appelât. Vous voyez, c'est exactement notre histoire. Nous aussi, on est des aveugles. Nous sommes des aveugles sur le plan spirituel. Nous sommes des aveugles sur le plan spirituel, d'abord à cause du péché, et puis aussi, nous sommes des aveugles sur le plan spirituel à cause de notre orgueil, et tout ce qui découle de l'orgueil. Et donc, on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien. La plupart des Français en France sont des aveugles. Des aveugles sur le plan spirituel, ils se préoccupent absolument pas de leur âme. Alors le bon Dieu attend, et parfois il envoie des épreuves. Regardez cette panique en France, j'enregistre ce cours le 21 mars 2020, en plein confinement à cause du coronavirus. Regardez cette panique en France pour des histoires de corps. Certes, il commence à y avoir pas mal de morts, c'est vrai, mais les gens, la plupart des gens, l'immense majorité des Français, ne se préoccupent que de leur corps. Ils paniquent parce qu'il y a un coronavirus qui risque de prendre pas mal de vies. Eh bien, le bon Dieu peut très bien utiliser, c'est clair et net, utiliser cette crise terrible du coronavirus pour aider les gens à comprendre, attention. Si vous demandez la guérison de votre corps, la préservation de votre corps pour ne pas être contaminé par ce virus, pensez que vous avez une âme. Et qu'il est bien plus important de sauver votre âme que de sauver votre corps. Et peut-être bien que si le bon Dieu ne nous exauce pas, c'est précisément parce qu'on ne demande que des choses corporelles. Seigneur, préservez mon corps de ce virus. Alors qu'il faudrait pouvoir dire, Seigneur, préservez mon âme d'un virus bien plus grave, des millions de fois plus grave que le coronavirus. Préservez mon âme du virus du péché, du péché mortel. Alors, il faut, mes bien chers frères, avoir le courage de demander comme il faut, quand il faut, et ce qu'il faut, et pas n'importe quoi. Donc il faut répéter au bon Dieu, Seigneur, Seigneur, ayez pitié de moi. Mais il faut surtout dire au bon Dieu, Seigneur, ayez pitié de mon âme. Certes, j'ai besoin d'avoir un corps en bonne santé, mais ayez pitié de mon âme. Le drame, c'est pas tous ces gens qui meurent, bien sûr, c'est déjà un drame en soi, mais il y a un drame bien plus grave, c'est de tous ces gens qui sont morts, peut-être 10 000 morts déjà à cause du coronavirus, ce qui, entre parenthèses, n'est pas énorme par rapport à la population mondiale. Et n'oubliez pas, je crois déjà dit qu'il y a, je crois, 165 000 personnes qui meurent tous les jours de causes naturelles. Bon, ben, donc 10 000 personnes, c'est quand même pas énorme. Eh bien, sur ces 10 000 personnes qui sont mortes déjà du coronavirus, qui encore une fois est une chose triste, combien étaient en état de grâce le jour de leur mort ? Voilà la question qu'il faut se poser. Et combien de personnes qui sont en train de mourir dans leur corps à cause du coronavirus
sur leur lit d'hôpital, en train de mourir, se posent la question, et mon âme? Et mon âme? Vous voyez, c'est là où on voit ce que faisait le Moyen-Âge. Qu'est-ce que faisait le Moyen-Âge dans les temps de peste ou les temps de grande épidémie? On sortait les reliques, on sortait la croix, on faisait des grandes processions pour supplier le bon Dieu d'avoir pitié des fidèles. Et on mettait les choses au niveau surnaturel, on poussait les gens à se confesser, on poussait les gens à changer de vie, afin que les malades puissent comprendre que la maladie qui atteint le corps nous explique qu'il y a une autre maladie bien plus grave qui atteint l'âme. Et si la maladie qui atteint le corps, et Dieu sait si les pestes du Moyen-Âge étaient épouvantables, eh bien, cette maladie qui corrompait le corps, qui pourrissait le corps littéralement sur pied, est un symbole d'une autre maladie bien plus grave, qui est la maladie du péché. Vous voyez ? J'ai lu récemment que Rome était en train d'accorder une indulgence plénière pour les gens qui mouraient du coronavirus, les catholiques qui mouraient du coronavirus. Mais c'est du n'importe quoi. Une indulgence plénière n'a jamais enlevé le péché. Le texte dit qu'on accorde une indulgence plénière aux gens qui sont atteints du coronavirus, aux catholiques malades, pour enlever leur péché. Une indulgence plénière n'a jamais enlevé un péché. L'indulgence plénière enlève la peine temporelle due au péché déjà pardonné. C'est pour ça qu'une des conditions pour pouvoir gagner une indulgence partielle ou plénière, première condition, c'est d'être en état de grâce. Quelqu'un qui n'est pas en état de grâce, donc qui ne vit pas dans l'amitié du bon Dieu, qui ne s'est pas confessé récemment pour être en état de grâce, eh bien, ne peut pas prétendre gagner une indulgence plénière ou partielle. Vous voyez ? Donc, je pense qu'on peut vraiment aller jusqu'à dire que la crise du coronavirus est peut-être un acte de la miséricorde du bon Dieu. Non pas parce que les gens meurent, mais parce que les gens mourant, cela va aider certaines personnes à se rappeler qu'ils ont une âme. Une âme à sauver. Même les païens ont une âme à sauver. Nos politiques qui se moquent complètement de leur âme vont avoir aussi une âme à sauver. Il faudrait peut-être qu'ils y pensent un peu. Alors nous qui sommes catholiques, surtout dans la tradition, les gens qui m'écoutent sur Internet, ils sont catholiques. Bon, bien sûr, on a le droit de paniquer à cause de ce virus, mais il faut avoir le courage d'aller au fond du problème. Que cette crainte que j'ai de mon corps, atteint par un virus éventuel, m'aide à comprendre que je dois protéger mon âme d'un virus infiniment plus grave, à savoir le virus du péché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Essayer de se confesser le plus tôt possible. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, les églises sont fermées, les messes sont interdites pratiquement partout. Mais prier pour avoir, justement, il faut faire ce que l'aveugle ici a fait. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Mais j'ai besoin de me confesser. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi, aidez-moi à trouver un prêtre. C'est pas évident. Les prêtres devraient être en première ligne pour pouvoir aider les gens en train de mourir, à les aider et les aider à retrouver l'état de grâce. C'est pour ça que moi je continue de circuler dans mon activité professionnelle de prêtre, justement pour essayer, dans toute la mesure du possible, d'aider les gens de confesser. Mais je crois que cet évangile, j'insiste un peu, parce que cet évangile me semble parfaitement adapté à la situation actuelle. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ s'approche de nous en nous demandant « Que voulez-vous que je fasse ?», il faut répondre « Rabboni, Maître, Seigneur, que mon âme voie. » Que mon âme voie. Je pense que, avant de demander la guérison corporelle, il faut avoir le courage de demander l'ouverture des yeux de nos âmes. Je pense qu'un des plus grands châtiments qui puisse atteindre un homme aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel, la cécité intellectuelle. Et cette cécité intellectuelle est provoquée par l'abondance des produits matériels, l'abondance des choses matérielles. Quand mon âme est couverte de choses matérielles, eh bien évidemment, mon âme est comme étouffée par ces choses matérielles. Et plus j'ai des choses matérielles, plus j'ai des choses matérielles qui encombrent ma maison, moins il y a place pour le bon Dieu. N'oublions pas que pour que le bon Dieu puisse rentrer dans une âme, première condition, il faudrait peut-être avoir le courage d'ouvrir la porte de son âme pour faire la place pour le bon Dieu. Si la maison est pleine de choses matérielles, le bon Dieu n'a pas de place. Vous voulez faire rentrer le bon Dieu dans la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencez par lui faire de la place. D'abord, on arrange un peu les extérieurs quand même pour que la maison soit présentable. On nettoie la maison, mais on fait de la place. On ne peut même pas rentrer parce qu'il y a, une pagaille matérielle partout. Qu'est-ce qu'on fait? On vide des choses matérielles. Et si on vide des choses matérielles, à ce moment, ça va faire un peu de place pour le bon Dieu qui va venir et qui va nous répondre, allez, votre foi vous a sauvé. Mais il faut peut-être d'abord commencer par s'occuper des âmes. Donc la grâce à demander en ces temps d'épidémie, c'est précisément cette grâce, la grâce de savoir être préservé du péché. Pour expliquer ce que je viens de vous dire, je voudrais utiliser une partie de l'Ancien Testament. C'est au livre des Rois, deuxième livre des Rois, au chapitre 24. Donc je vais vous lire ce passage parce que c'est exactement ce qui se passe actuellement dans le monde moderne. David, le grand roi David, tombe dans l'orgueil. Il tombe dans l'orgueil et il va vouloir savoir le nombre des gens qui habitent, qui sont dans son royaume. Et David va demander à Joab, qui était prince de son armée, va lui dire, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Berzabé, et dénombrez tout le peuple afin que j'en sache le nombre. Alors, Joab, qui se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce n'est certainement pas le moment où la fureur du Seigneur commence à s'irriter contre Israël et à s'exciter parmi eux, c'est peut-être pas le moment de faire un dénombrement. Alors, Joab répondit au roi David, que le Seigneur, votre Dieu, multiplie votre peuple encore autant qu'il est maintenant et que de nouveau, il le centuple en la présence de Monseigneur le roi. Mais que veut faire Monseigneur le roi par une chose de cette nature? Hélas, David ne va pas écouter le bon sens de Joab. La parole du roi l'emporta sur les paroles de Joab et des princes de l'armée. Joab a dû sortir. Et les princes des soldats de la présence du roi, il a dû sortir de la présence du roi pour dénombrer le peuple d'Israël. Et donc il va partout avec ses officiers pour dénombrer le peuple d'Israël. Et Joab donna donc le dénombrement du peuple au roi. Et il se trouva d'Israël 800 000 hommes forts qui pouvaient tirer l'épée, et de Juda 500 000 combattants. Et là, déjà, le bon Dieu commence à donner certaines grâces de lumière à David. David qui était tombé dans l'aveuglement spirituel. Au verset 10, il est dit, « Le cœur de David fut alors pris de remords, après que le peuple eût été dénombré. » Et David dit au Seigneur, « J'ai beaucoup péché en cette action. » Il se rend compte qu'il est tombé dans l'orgueil. « Mais je vous prie, Seigneur, écartez l'iniquité de votre serviteur parce que j'ai agi tout à fait en insensé. » C'est exactement ce qui se passe actuellement. Nous sommes des insensés. Alors, Dieu va faire intervenir un prophète, Gad. Et Dieu va dire à Gad, « Allez voir David. » Et vous lui direz, voici ce que dit le Seigneur, l'option de trois choses t'est donnée. Choisis celle que tu voudras afin que je te la fasse. Alors donc, Gad fut venu vers David et lui annonça, disant, ou une famine vous viendra sur la terre pendant 7 ans, ou vous fuirez vos ennemis pendant 3 mois, et eux vous poursuivront, ou bien une peste sera pendant 3 jours dans votre terre. Maintenant donc, délibérez et voyez quelle parole je dois porter en réponse à celui qui m'a envoyé. Donc Dieu va obliger, pour vaincre l'orgueil de David, à choisir entre 3 mots. Et David répondit à Gad, « Je suis dans une très grande angoisse, mais il vaut mieux que je tombe dans les mains du Seigneur, car ses miséricordes sont sans nombre que dans les mains des hommes. » Alors, le Seigneur envoya une peste en Israël. Ce n'est pas le coronavirus, c'était une peste. Depuis le matin jusqu'au temps marqué. Il en mourut d'entre le peuple, depuis Dan jusqu'à Bersabée, 70 000 hommes. Et lorsque l'ange du Seigneur eut étendu sa main sur Jérusalem pour la détruire, le Seigneur eut pitié de son affliction. Et il dit à l'ange qui frappait le peuple, « Il suffit maintenant, retiens ta main. » Or l'ange du Seigneur était alors près de l'aire d'Areouna, de le Jébuséen. Écoutez la prière magnifique de David au Seigneur. Quand il vit l'ange qui tuait le peuple, « c'est moi qui ai péché et qui ai agi iniquement. Ceux-ci qui sont les brebis, qu'ont-ils fait ? Que votre main, je vous conjure, se tourne contre moi et contre la maison de mon père. » Alors, Dieu envoya Gad de nouveau qui vint dire à David, « Montez et élevez au Seigneur un autel dans l'aire d'Arounéa, le Jébuséen. » Et Dieu va accepter le sacrifice d'Abraham et la plaie va s'arrêter. Je pense que c'est un beau texte à méditer. Nous sommes un peu dans la même situation, nous aussi, nous sommes orgueilleux comme ce n'est pas permis. On compte beaucoup trop sur nous-mêmes, sur l'homme. Alors Dieu envoie parfois des châtiments terribles. Alors, je vous conseille beaucoup de méditer pour comprendre ce texte, en fait, non seulement ce texte du Livre des Rois que je viens de vous lire, mais aussi ce texte de Saint-Marc que nous sommes en train de méditer actuellement, utiliser. Vous pouvez la lire sur vos missels. Si vous avez un missel bien complet, il y a une messe très belle, peu connue. C'est une messe votive en temps de mortalité ou d'épidémie, on est en plein dedans. Et actuellement, je dis tous les jours, au cours de ma messe, après les oraisons obligatoires du jour, l'oraison des saints ou l'oraison de la féerie de carême, les oraisons accomplices, l'oraison pour les vivants et les morts qui est obligatoire en carême, quand c'était une féerie de carême, je rajoute actuellement tous les jours, après chaque messe, ou pendant chaque messe, l'oraison de la messe en temps de mortalité ou d'épidémie. Je vous donne l'oraison, la collecte qui est magnifique. Magnifique. Ô Dieu, qui désirait non pas la mort, mais la pénitence des pécheurs, regardez avec bonté votre peuple qui revient à vous. Et puisqu'il se montre fidèle à vous servir, daignez détourner de lui les fléaux de votre colère. Voyez, mes bien chers frères, voilà ce qu'il nous faut faire. Faire un peu comme Bartimée l'aveugle, appelez, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Il n'écoute pas, on rappelle, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Afin que notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle et qu'il nous demande, que voulez-vous que je fasse ? Seigneur, ouvrez les yeux de mon âme, que je comprenne la gravité du péché, que je comprenne la nécessité de me convertir. Je vous lis aussi la secrète. Que l'offrande de ce sacrifice nous vienne en aide, Seigneur, qui nous affranchisse de toutes les erreurs et nous arrache au danger d'une entière perdition. Puis la post-communion, exaucez-nous, ô Dieu notre Sauveur, délivrez votre peuple des angoisses, soulevez votre colère et apaisez-le par une large effusion de votre miséricorde. Voyez, si cette crise terrible du coronavirus pouvait aider certaines personnes à ouvrir leurs yeux, les yeux de leur âme, et comprendre que peut-être nous méritons cette crise terrible parce que justement nous nous sommes moqués du bon Dieu et dans la pratique nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Souvenez-vous, Seigneur, de votre alliance, Seigneur, et dites à l'ange qui nous frappe, arrêtez votre bras, que la terre ne soit pas dans la désolation, ne détruisez pas tout être vivant. Pasteur d'Israël, prêtez l'oreille, vous qui guidez comme un troupeau. Joseph et ses enfants. Ça, c'est l'intro 8 qui est aussi magnifique. Le Seigneur envoya alors sa parole et les guérit et les arracha au tombeau. Qu'on rende hommage au Seigneur pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des enfants des hommes. Il y a un texte aussi magnifique dans cette même messe pour le votif, pour le temps de mortalité ou d'épidémie. C'est un extrait du livre des Nombres. Le grand prêtre se plaça entre les morts et les vivants, un encensoir d'or à la main, et offrant un sacrifice d'encens, il apaisa la colère de Dieu, et le Seigneur fit cesser le fléau. C'est le rôle du prêtre. Le prêtre, pour reprendre le texte du livre des Nombres, c'est celui qui se place entre les morts et les vivants, pour offrir un sacrifice, et le plus beau sacrifice à offrir, c'est évidemment le sacrifice de la messe. À chaque messe que je dis en ce moment, bon, memento des vivants, je prie pour tous ceux qui vont mourir aujourd'hui dans le monde. Et memento des morts, je prie pour tous ceux qui sont morts aujourd'hui ou qui vont mourir dans la journée. Il faut aussi se rappeler, c'est la communion, le texte de communion de la messe en temps, motif en temps de mortalité ou d'épidémie. Une foule d'infirmes et ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs venaient à notre Seigneur parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. C'est cette force qu'il faut invoquer, mes bien chers frères. Et c'est cette force qu'a invoquée Bartimée l'aveugle. Et c'est pour ça qu'il va l'appeler maître. Rabouni, c'est le verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que voulez-vous que je fasse ?» Et l'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je vois. » Donc ce titre de maître ou de seigneur, donc on a page 32 sur le polycopier, ce titre de maître ou de seigneur qu'on lit dans les autres évangélistes, Rabouni, ça veut dire maître en araméen. Ce titre est plus digne que celui de fils de David. Aussi le Sauveur qui ne l'a point exaucé tant qu'il a dit « Fils de David » le guérit aussitôt qu'il l'appelle « Maître ». Parce que là, il y a encore un acte de foi. C'est le Maître en Israël. Donc si l'aveugle arrive vers notre Seigneur Jésus-Christ et lui fait cette demande « Rabboni, que je vois », il fait un acte de foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la prière qu'il nous faut faire aujourd'hui. Vous voyez, il faut prier, demander au bon Dieu d'ouvrir les yeux de tous ces gens qui meurent. Ce qui est terrible, c'est pas que les gens meurent. Ce qui est terrible, c'est que les gens meurent sans même être prêts à mourir. Et tout, encore une fois, de toutes ces personnes qui meurent, combien sont prêtes à mourir? Combien de ces personnes vont mourir, vont se retrouver devant notre Seigneur Jésus-Christ, vont être jugées par Dieu, sans même avoir compris pourquoi ils avaient été placés sur la terre par ce même Dieu? Moi, ça m'affole, j'avoue, quand j'y pense, c'est épouvantable. Le nombre de ces gens qui vont mourir et qui vont réaliser, en arrivant devant Dieu pour être jugés au moment de leur mort, qui vont arriver en comprenant qu'ils ont les mains vides. Être vide, avoir les mains vides devant Dieu, c'est le pire des châtiments. Même tous ces gens qui en face de nous, les membres du gouvernement, qui se moquent complètement de Dieu, ils vont mourir un jour. Bergoglio va mourir un jour, Macron va mourir un jour. Il va falloir qu'ils rendent compte. Rends compte de ta gestion. C'est ce que le maître demande au serviteur. Rends compte de ta gestion. Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait du pouvoir que je t'ai donné? Toute autorité vient d'en haut et ceux qui ont plus de pouvoir auront à rendre des comptes plus grands. C'est pareil pour moi en tant que prêtre. Moi aussi, je vais mourir et moi aussi, je vais être jugé par Dieu. Et le bon Dieu aura le droit de me demander beaucoup plus parce que justement, en tant que prêtre, j'ai reçu beaucoup plus de grâce parce que j'ai reçu la grâce du sacrement de l'ordre que M. Macron n'a pas reçu. J'ai reçu la grâce du baptême que la plupart de ses gouvernants n'ont pas reçu. Alors, les pères de l'Église, en bas de la page 32 sur le polycopier, qui couvre les chapitres 6 à 10, les pères de l'Église font remarquer que l'aveugle était à Jéricho, dont le nom veut dire lune, qui représente les défaillances de notre mutabilité naturelle. Rappelez-vous ce texte, l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Le texte du bon samaritain, cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho et qui va tomber aux mains des brigands qui vont tout lui prendre, le laisser demi-mort sur la route, il faut que le bon samaritain arrive, bande les plaies de ce pauvre homme, il le place sur sa propre monture pour l'amener à l'église, pour l'amener à l'aubergiste. Eh bien, Jéricho représente les défaillances de notre mutabilité naturelle parce que le symbole de Jéricho, c'était la lune. Or, la lune change, décroît. On a une pleine lune et puis la pleine lune va diminuer de plus en plus, apparemment, au moins, dans sa lumière. Puis finalement, la lumière va disparaître complètement avant la reprise d'un nouveau cycle lunaire. Eh bien, cette lune qui change tout le temps représente les défaillances de notre mutabilité naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette lune représente l'esprit changeant des hommes. L'esprit changeant des hommes. On est un peu comme cet aveugle. On demande un miracle, On obtient le miracle, on remercie, et puis on oublie tout, et on recommence. Combien de fois je suis allé me confesser, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai un très grand regret de ce que j'ai fait, de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi, Seigneur, par les mérites de Jésus-Christ, mon Sauveur. Je prends la ferme résolution, et que ce qu'on votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, de faire pénitence. On reçoit l'absolution, et puis, quelques jours après, parfois quelques heures après, on oublie, on recommence. Alors, justement, que cette terrible épidémie qui nous touche un peu tous de près ou de loin, nous rappelle à quel point notre âme est importante. Et si cette épidémie permet à certaines personnes de sauver leur âme, eh bien, Deo gratias. Je vous ai déjà donné l'exemple plusieurs fois, je ne vais pas y revenir, de ces sodomites qui ont pu se convertir avec la grâce du bon Dieu parce qu'ils sont tombés dans le sida, ils ont attrapé le sida, et le sida les a convertis. J'ai connu des conversions magnifiques de sodomites qui se sont convertis, qui ont changé de vie et qui ont sauvé leur âme grâce au sida. Il n'y aurait pas eu le sida, ils n'auraient pas sauvé leur âme. Eh bien, si cette crise du coronavirus permet à un certain nombre d'âmes, Dieu seul connaît ce nombre, bien sûr, à un certain nombre d'âmes de changer de vie, de sortir du péché et de faire sauter ces écailles qui sont devant les yeux de notre âme pour que nous puissions voir que notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous dire vraiment, allez, votre foi vous a sauvé, j'ouvre les yeux de mon âme, que je me rends compte de ce qu'est le péché. Alors, eh bien, alors, cette pandémie terrible n'aura pas été perdue pour tout le monde. Voilà ce que disent les pères. C'est en approchant de Jéricho que notre Seigneur rend la vue à cet aveugle. Parce que c'est en paraissant revêtu d'une chair mortelle et aux approches de sa passion qu'il amène un grand nombre d'âmes à la lumière de la foi. Oui. Par l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, on arrive à la divinité. On a du mal à aller directement à la divinité parce qu'on ne la voit pas. Par contre, on voit l'humanité de notre Seigneur. Au moins au temps de notre Seigneur, les gens voyaient l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser son humanité pour élever les âmes jusqu'à sa divinité. Mais pour cela, il faut un minimum de bonne volonté. Et cette bonne volonté, elle se manifeste justement par l'acceptation d'ouvrir les yeux de mon âme. La plupart des gens, c'est ça qui est terrible aujourd'hui, la plupart des gens refusent d'ouvrir leur âme parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ont une frousse bleue que l'ouverture de leurs yeux entraîne, les oblige à se convertir. Combien de fois j'ai vu ça dans mon apostolat de prêtre, des cas douloureux. Des cas douloureux, par exemple, j'ai eu plusieurs fois, c'est rare heureusement, mais enfin j'en ai eu quand même, des gens qui partent au bout d'une journée de retraite, une journée et demie de retraite. Et en général, ils partent sans me le dire. Mais parfois, j'arrive à les coincer avant qu'ils partent parce que je me doute qu'ils vont partir. Et je leur dis, pourquoi voulez-vous partir? Je leur demande, et pourquoi partez-vous? Attendez au moins les confessions, retrouvez la paix du bon Dieu. Pourquoi partez-vous? Et en général, ils ne veulent pas me répondre. Alors je les regarde droit dans les yeux et je leur dis, vous avez peur de la conversion, hein? Vous avez peur de vous convertir. Voilà pourquoi vous partez. Et ils baissent les yeux. Et en général, ils me disent, oui, c'est ça, monsieur l'abbé, vous avez compris? Bien sûr, j'ai compris. Et j'essaie de les encourager à rester, ne vous découragez pas. Mais malheureusement, plusieurs fois, les gens ne veulent pas se convertir. C'est souvent, hélas, le cas quand il y a des histoires de mariage invalide. Des gens qui vivent dans le concubinage, divorcés mariés par exemple, qui ont été remariés civilement évidemment, voire même dans l'Église moderne parce qu'ils font n'importe quoi, remariés devant l'Église de Vatican II, mais qui savent très bien au fond d'eux-mêmes qu'ils sont toujours mariés avec la première parce qu'elle est toujours vivante. Ils se rendent bien compte que s'ils restent à la retraite, qu'ils font une véritable confession générale de toutes les fautes de leur vie, pour recevoir l'absolution, il va falloir qu'ils changent certaines choses. Ils se doutent, ils ne sont pas bêtes. Ils se doutent, l'abbé va me demander de quitter la femme avec laquelle je vis parce que ce n'est pas mon épouse légitime et ça, je ne veux pas. Et au lieu de venir nous voir avec humilité pour essayer de trouver une solution, il peut y avoir une solution dans certains cas, surtout pour les personnes âgées, dans certains cas particuliers, et écoutez, au moins vivez comme frères et sœurs. Si vous prenez la résolution ferme et les moyens pratiques ferme, de vivre comme frères et sœurs, vous pouvez déjà recevoir l'absolution. Hélas, non, certains s'en vont. Bien, suivons l'exemple de Bartimée et l'aveugle, il demande la grâce. Et il va demander au Seigneur, Rabboni, que je voie. Et qu'est-ce que répond notre Seigneur? Notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas, je t'accorde ce que tu demandes. Retrouve la vie du corps. Retrouve la vue du corps. Retrouve l'usage de tes yeux. Non. Qu'est-ce que dit notre Seigneur? Allez, votre foi vous a sauvé. D'un seul coup, Dieu l'oblige à passer du niveau physique. Cet homme vient demander la vision physique que je vois, que je retrouve l'usage de mes nerfs optiques, que je retrouve l'usage de mes deux yeux. Et notre Seigneur Jésus-Christ passe au niveau supérieur tout de suite. Votre foi vous a sauvé. Et pour prouver que ce qu'il dit correspond à la réalité, alors il va accorder le miracle physique. Et donc, il y a une double illumination qui va être accordée à Bartimée l'aveugle. Une illumination physique et une illumination spirituelle. L'illumination physique fait qu'il va retrouver la vue. L'illumination spirituelle fait qu'il va être pardonné de ses péchés. Et très souvent, c'est le cas pour nous, mes chers frères. On s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ pour demander des choses temporelles. Et le bon Dieu, parfois, nous accorde ces choses temporelles, si c'est pour nous une aide, mais il nous accorde surtout les choses spirituelles. Allez en paix, vos péchés sont pardonnés. C'est ce qu'il va dire à Sainte Marie-Madeleine, et c'est ici ce qu'il dit à Bartimée l'aveugle. Allez, votre foi vous a sauvé. Donc, je continue les commentaires des pères. Ce n'est pas dans les premières années de son incarnation, mais dans les années qui ont précédé immédiatement sa mort, qu'il a révélé au monde le mystère du Verbe incarné. Donc notre Seigneur utilise d'abord son humanité, qui vient d'incarnation, et il va monter au niveau spirituel, au niveau surnaturel. Derrière son humanité, il y a la divinité. Donc il va utiliser son humanité souffrante pour nous aider à monter à sa divinité. Et beaucoup de gens ne vont voir malheureusement que l'humanité. Ce n'est pas évident quand on voit notre Seigneur Jésus-Christ en train de souffrir sur la croix, mourir comme le dernier des esclaves, de comprendre que cet homme qui souffre est aussi Dieu. Mais c'est possible. C'est le cas de Saint Longin, le centurion qui ouvre le côté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le cas aussi de le centurion qui va dire « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Il constate, il voit là l'éclipse du soleil, il voit les manifestations de la nature, les corps qui sortent des tombeaux, les rochers qui éclatent littéralement, les rochers qui se fendent, et il monte au niveau spirituel, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Mais malheureusement, c'est ce que disent les pères de l'Église, beaucoup de gens n'ouvrent pas, n'acceptent pas que leur cœur se fendille comme les rochers du sommet du Golgotha. Les rochers participent à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le soleil participe à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. En cachant sa lumière, les rochers vont s'ouvrir. Les morts vont ressusciter. Mais les cœurs des pécheurs ne se convertissent pas. Avant d'entrer dans Jéricho, nous disent les Perses en bas de la page 32, avant d'entrer dans Jéricho, Jésus rend la vue à un seul aveugle. Et en sortant de cette ville, il en guérit deux. Tandis qu'avant sa passion, il n'a prêché son évangile qu'au seul peuple juif, tandis qu'après sa résurrection et son ascension, il a révélé par ses apôtres aux juifs et aux gentils les secrets de sa divinité et de son humanité. Passons à la page 33. Je vais essayer de terminer aujourd'hui le chapitre 10. Donc Saint Marc, qui ne rapporte la guérison que d'un seul aveugle, a en vue le salut des gentils et présente à ceux qu'il instruisit des mystères de la foi une figure spéciale de leur conversion. Donc ici, c'est la prédication de l'évangile au seul peuple juif. Mais en fait, le deuxième aveugle qui va être guéri dans la même ville représente la prédication de l'évangile, cette fois-ci au peuple des gentils. Ça va être tout l'apostolat de Saint Paul. Donc Saint Matthieu, en haut de la page 33, au contraire, dont l'évangile écrit pour les épreux convertis à la foi devait cependant parvenir ensuite aux gentils, rapporte lui la guérison de deux aveugles pour nous apprendre que les deux peuples participeraient un jour à la même grâce de la foi. Donc, pourquoi ? Parce que l'évangile de Saint-Marc était plus pour les gens de Palestine. Alors qu'au contraire, l'évangile de Saint-Matthieu allait devoir davantage être utilisé par les gentils. Alors c'est bien expliqué juste après, dans le troisième paragraphe de la page 33, un texte magnifique des Pères. Là, au moment où notre Seigneur sort de Jéricho, accompagné de ses disciples et d'une grande multitude, un aveugle se trouve assis sur le bord du chemin pour demander l'aumône. Et cet aveugle est la figure du peuple des gentils qui commence à concevoir l'espérance de recouvrer la lumière lorsque le Sauveur monte aux cieux. Suivi d'une foule innombrable de fidèles et de tous les élus depuis le commencement du monde qui entrèrent avec lui dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce que l'apostolat aux gentils ne va pas commencer du temps de la vie sur la terre ici-bas de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il va commencer qu'après l'ascension, plus exactement qu'après la Pentecôte. Donc il faut attendre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, puis ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ va rester avec ses disciples pendant 40 jours de l'ascension, de la résurrection de notre Seigneur le jour de Pâques jusqu'au jour de l'ascension. Et ensuite, il faut encore attendre 10 jours entre l'ascension, le jeudi de l'ascension et la fête de la Pentecôte. À ce moment-là, Dieu va illuminer tous ses disciples et les, une partie des disciples et les apôtres avec le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, Dieu va les envoyer dans le monde entier. Allez baptiser, prêcher. Allez prêcher, baptiser. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, cet aveugle est la figure du peuple des gentils. Alors, le premier aveugle, encore une fois, c'est la figure de la conversion des juifs. Deuxième aveugle, c'est la figure de la conversion des gentils. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ donne aux deux les mêmes grâces, les grâces de lumière. Il donne aux juifs et aux gentils la grâce de lumière. Mais il donne d'abord aux juifs, parce que les juifs étaient le peuple élu de l'Ancien Testament, donc il commence d'abord par eux. Et Dieu merci, on voit beaucoup de juifs se convertir. Il ne faut pas oublier que pratiquement tous les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres et les premiers convertis, au moment de la Pentecôte, il y a des milliers de personnes qui vont être converties après la prédication de Saint-Pierre, le grand sermon de Saint-Pierre. Eh bien, tous ces convertis sont des juifs convertis, qui quittent le peuple élu de l'Ancien Testament pour rencontrer le peuple élu du Nouveau Testament, à savoir le peuple des catholiques. Donc, cet aveugle qui mendie sur le bord de la route, nous disent les pères, représente le peuple des gentils qui n'était pas encore entré dans la vérité et fait simplement des efforts pour y parvenir. Donc c'est la première étape, il mendie, il demande des choses matérielles, nourrissez-moi, donnez-moi un peu d'argent pour que je puisse me nourrir. Mais cette demande de choses, de biens matériels, c'est déjà quelque chose. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est crier, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Lorsqu'on lui apprend que Jésus de Nazareth arrive, il arrête de mendier. Il comprend qu'il va avoir plus. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Il insiste, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ l'appelle. Levez-vous, lui disent les gens autour de lui. Il vous appelle, le maître vous appelle. Jésus, Rabboni, que je vois. Et notre Seigneur Jésus-Christ élève immédiatement l'âme au niveau surnaturel. Il passe du niveau physique. L'homme demande une guérison du corps et il accorde la guérison de l'âme. Votre foi vous a sauvé. Sous-entendu, vos péchés sont pardonnés. C'est ça que ça veut dire. Donc Saint Jérôme nous dit que l'aveuglement où est tombée une partie du peuple juif fera place à la lumière lorsqu'à la fin du monde, notre Seigneur leur enverra le prophète Élie. Le peuple juif qui conserve les Écritures sans les accomplir est aussi figuré par ce mendiant du chemin qui souffre de la faim et qui crie « Fils de David, ayez pitié de moi » parce que c'est par le mérite des patriarches que le peuple juif peut obtenir la grâce de la lumière. Vous voyez ? Donc on est un peu nous comme ça aussi. On demande d'abord des choses matérielles, des choses pour le corps. Vous voyez ? Dans la pandémie du coronavirus, c'est ça. Les gens demandent une guérison du corps. Que je sois préservé, que je sois préservé de l'attaque du coronavirus. Eh bien, le bon Dieu va utiliser toutes ces morts, cette crainte. C'est un peu une crainte servile, il faut bien avouer ce qui est, une crainte servile autour de nous pour obliger les gens à passer de la crainte du corps à la crainte concernant l'âme. Au début, on demande, on prie simplement pour ne pas être attaqué par le coronavirus, pour ne pas mourir si on est déjà contaminé. Et le bon Dieu va nous monter littéralement au niveau suivant pour demander la guérison de notre âme. Mais attention, tous ne vont pas monter à ce niveau surnaturel. Hélas, la plupart des gens qui nous entourent ne demandent que les choses matérielles, la guérison du corps et oublient la guérison de l'âme. Et ils demandent la guérison du corps uniquement aux médecins corporels. Bon, ceux qui sont catholiques vont demander une guérison du corps aux médecins surnaturels. Donc première étape, on demande la guérison du corps seulement aux médecins physiques, aux médecins des hôpitaux. Deuxième étape, pour le catholique qui retrouve un peu la foi, il va demander la guérison du corps, mais pas simplement aux médecins de l'hôpital, mais aussi aux médecins célestes, notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisième étape, on passe d'une contrition imparfaite, peur de la mort, parce qu'on a simplement peur de l'enfer, c'est tout. On va passer une contrition parfaite. Contrition parfaite, c'est s'adresser au médecin spirituel pour qu'il guérisse non pas le corps, mais l'âme. Et s'il le veut, il guérira aussi l'âme. Avec l'âme, il guérira aussi le corps. C'est ce qu'on voit ici dans la guérison de l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée demande la guérison du corps. Il obtient en plus la guérison de l'âme. Donc il faut avoir le courage de dire au bon Dieu, Seigneur, que mon âme, les yeux de mon âme s'ouvrent, que je puisse comprendre ce qu'est le péché, la gravité du péché, pardonnez-moi tous les péchés de ma vie passée. Et s'il le veut, le bon Dieu guérira aussi de la maladie corporelle. Et c'est magnifique, parfois on voit des malades comme ça qui se convertissent avec la grâce du bon Dieu. Et puis, au début, ils demandaient une guérison corporelle. Et puis, finalement, ils demandent une guérison spirituelle. Et puis, on leur donne l'absolution. Ils comprennent à ce moment-là. Et ils disent, ils ont retrouvé la paix. Ils étaient dans l'angoisse la plus totale. Ils retrouvent la paix. Une fois qu'on leur a donné l'absolution, qu'on leur a donné l'extrême onction, qu'on leur a donné le viatique, à ce moment-là, ils retrouvent leur paix. Et ils nous disent, mon père, Monsieur l'abbé, merci d'être venu, merci de m'avoir redonné cette paix. Maintenant que je suis en paix avec notre Seigneur Jésus-Christ, alors je veux bien partir. Je ne demande même plus la guérison corporelle. Alors on leur dit, écoutez, l'important c'est la guérison spirituelle. Cependant, si le bon Dieu le désire, vous avez le droit de demander aussi la guérison physique. Et c'est le but de l'extrême onction. L'extrême onction a pour but premier d'enlever non pas le péché, parce que l'extrême onction n'enlève pas les péchés, mais les conséquences des péchés, c'est-à-dire les peines du purgatoire. Les conséquences des péchés pardonnés, les peines du purgatoire. Donc l'extrême onction, dans certains cas, amène aussi une guérison corporelle. Mais le but de l'extrême onction, c'est d'abord la guérison de l'âme. Votre foi vous a sauvé, et parfois la guérison corporelle. Donc, les pères de l'Église se sont posé la question de savoir pourquoi les gens qui sont autour de l'aveugle, qui s'est mis à hurler « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », pourquoi ils le menacent pour qu'il se taise. Les pères de l'Église font remarquer, c'est très intéressant, que ces menaces multipliées qui imposent le silence, qui cherchent à imposer le silence à Bartimée l'aveugle, représentent les péchés, les démons qui étouffent le cri du pauvre. Mais cet aveugle redouble ses cris, car plus la lutte devient violente, plus aussi il faut lever les mains avec de grands cris vers la pierre de secours, c'est-à-dire vers Jésus de Nazareth. Et donc, la confession, l'absolution sacerdotale va obtenir justement cette ouverture des yeux de l'âme. Donc Saint Bède rajoute, Saint Bède le Vénérable, dès que le peuple des gentils eut appris la célébrité du nom de Jésus-Christ et cherche à participer à ses grâces, malgré les oppositions nombreuses, d'abord des juifs, puis des gentils eux-mêmes, qui ne voulaient pas que le monde rendu à la lumière invoquât le nom de Jésus. Cependant, leurs violentes attaques ne purent priver de la grâce du salut ceux qui étaient prédestinés à la vie. C'est pour ça qu'il va y avoir des persécutions terribles. Je vous l'ai déjà dit souvent, Darras dit que dans les premières, au cours des grandes persécutions de 66 à 313, il y a 14 millions de martyrs. Vous voyez? Donc, le bon Dieu utilise encore une fois des pandémies, des pestes, des persécutions terribles pour aider les gens à monter vers Dieu. Combien de personnes ont sauvé leur âme à cause de ces catastrophes? Combien de jeunes, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont sauvé leur âme en mourant pendant les combats terribles? Surtout pendant la Première Guerre mondiale, dans les combats terribles, mais après avoir reçu l'absolution de l'aumônier, qui faisait mettre tout le monde à genoux, j'ai déjà expliqué, faisait mettre tout le monde à genoux dans les tranchées, donner l'absolution générale, dans ce cas-là, c'est valide. Donc, là, il y a une phrase magnifique des pères. C'est en passant que Jésus entend les cris de cet aveugle. Car si c'est par la puissance de sa divinité qu'il chasse les ténèbres de notre âme, c'est par son humanité qu'il a compassion de nous. Là, on voit la justice et la miséricorde. La justice et la miséricorde. Et cette justice et cette miséricorde sont intimement, étroitement unies en notre Seigneur Jésus-Christ. La naissance, la mort de Jésus sont comme un passage. Ce sont des actions accomplies dans le temps. Mais se tenir debout signifie pour Dieu ordonner de manière immuable. Le Seigneur appelle à lui cet aveugle qui crie, parce qu'il charge les prédicateurs de porter aux gentils la parole de la foi. Ceci alors appelle l'aveugle, l'excite à la confiance, lui commande de se lever et de venir trouver le Seigneur, lorsqu'en instruisant les ignorants, ils font naître dans leur âme l'espérance du salut, les font sortir de la fange des vices et leur commande de se préparer au combat de la vertu. C'est tout le rôle du prêtre, instruire les ignorants. Instruire les ignorants pour leur faire naître l'espérance, les faire sortir du vice, parce que l'espérance va amener au confessionnal. Mais il faut sortir du vice. Tant que je ne veux pas sortir de la fange du vice, je ne peux pas me confesser. Le minimum du minimum pour se confesser, c'est la contrition imparfaite, dire le regret des péchés par peur de l'enfer. Mais ce regret des péchés par peur de l'enfer entraîne avec lui la fuite des occasions de péché. Si j'ai le regret des péchés par peur de l'enfer, mais que je reste, que je garde dans ma vie de tous les jours une occasion de péché, je reste dans l'occasion de péché, péché mortel, une occasion volontaire de péché mortel, mon absolution sera nulle. Le minimum, même si on regrette ses péchés que par peur de l'enfer, le minimum, c'est de sortir du péché. Même si c'est, encore une fois, par seule peur de l'enfer. Et saint Thomas d'Aquin explique que cette contrition imparfaite va se transformer en contrition parfaite au moment où on reçoit l'absolution. L'absolution est transformée en contrition, va transformer l'attrition en contrition parfaite. Attritum, fit perfectum, per sacramentum. L'attrition, la contrition imparfaite, devient contrition parfaite par le sacrement de pénitence, nous dit saint Thomas d'Aquin. Et donc, la contrition parfaite efface non seulement le péché, mais les peines temporelles du péché. Donc si quelqu'un se confesse, fait une confession générale sur son lit de mort par exemple, surtout avec en plus le viatique et l'extrême onction, non seulement tous les péchés ont disparu, mais en même temps, les peines temporelles des péchés déjà pardonnés vont disparaître. Et une personne qui peut mourir avec l'absolution sacerdotale, le viatique, l'extrême onction et en plus en plus la grâce d'une indulgence plénière, passe directement de son lit de misère à l'hôpital au ciel, directement. Comme après le baptême, comme le martyr. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il faut passer par des étapes. Il faut sortir la fange des vices et commander de se préparer au combat de la vertu. Et donc, l'aveugle jette son manteau, disent les pères, s'élance vers Jésus. Donc c'est la figure ici de celui qui se débarrasse de tous les liens du monde et qui s'empresse de marcher d'un pas libre vers la source de la lumière éternelle. Donc il faut s'approcher de notre Seigneur. Il ne s'agit pas de rester là où il mendie, sur le bord de la route. Non, il faut crier, attirer l'attention de notre Seigneur. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ l'appelle, à ce moment, il faut bouger et aller se jeter aux pieds de notre Seigneur. Que voulez-vous que je fasse, Seigneur, que je vois? Et notre Seigneur va ouvrir les yeux de notre âme, va nous faire sauter cette cécité spirituelle. C'est ça qui est terrible dans le monde moderne. On vit dans un monde d'aveugles. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde d'aveugles, de gens qui ne veulent pas ouvrir les yeux. C'est terrible, ça. C'est comme un malade qui est malade et qui refuse de reconnaître qu'il est malade. Tant qu'un malade, très malade, mortellement malade, avec une maladie mortelle, refuse de reconnaître qu'il est malade, il est inguérissable. Il est inguérissable parce qu'il ne voit pas qu'il est dans le péché. Donc imitons cet aveugle. Ne demandons à Dieu ni les richesses, ni les biens de la terre, ni les honneurs, mais demandons à voir cette lumière que nous avons le privilège de ne contempler qu'avec les anges. C'est la foi qui nous conduit à cette lumière. Aussi, le Seigneur répond à cet aveugle, votre foi vous a sauvé. Donc demandons les choses importantes. Les choses importantes, c'est d'abord l'âme. Ça sert à quoi demander la guérison du corps? Si une fois que j'ai obtenu la guérison du corps, j'utilise cette nouvelle santé que j'ai reçue pour pécher encore davantage contre notre Seigneur. Donc cet aveugle va voir, se met à la suite de Jésus, dès qu'il fait le bien qu'il lui est donné de comprendre. Car suivre Jésus, c'est ce que dit l'Évangile au verset 52, il vit et suivait Jésus sur le chemin. Suivre Jésus, nous disent les pères, c'est pratiquer le bien que l'intelligence perçoit. C'est imiter celui qui, aux félicités de ce monde, a préféré les ignominies et les opprobres de la passion. Il nous apprend ainsi que ce sont les amertumes qui ramèneront dans notre âme la joie intérieure et que la poursuite des biens de la terre nous a fait perdre. On commence à s'occuper des choses nécessaires. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. L'homme n'a pas été créé pour jouir des biens matériels, l'homme a été créé pour jouir des biens surnaturels. Et la condition pour pouvoir jouir des biens surnaturels éternellement, c'est d'être en état de grâce le jour où on meurt. Et pour pouvoir mourir en état de grâce, il faut se préparer avant, parce que l'arbre tombe du côté où il penche. L'évangéliste nous dit que cet aveugle suivait Jésus dans le chemin. C'est-à-dire dans cette vie, car une fois la mort venue, Jésus exclut de sa société, tous ceux qui ne l'ont pas suivi ici-bas en pratiquant ses commandements. N'oubliez pas que pour se convertir, il faut être dans le temps. Il faut avoir du temps, il faut avoir la grâce et l'usage de notre liberté. Trois conditions pour se convertir. Et les grâces du bon Dieu, elles ne s'appliquent qu'aux viateurs, c'est-à-dire à ceux qui sont sur le chemin. Une fois qu'on a quitté le temps, quand on quitte le temps, on tombe dans l'éternité. Dans l'éternité, plus de changement. On ne peut plus changer. Dans le temps, oui. Même si je suis le dernier des mécréants, je peux encore changer avec la grâce du bon Dieu, recevoir l'absolution, changer de vie. Mais si j'ai le malheur de mourir dans le péché mortel, alors c'est l'enfer pour toute l'éternité, parce que l'enfer n'est plus dans le temps, mais dans l'éternité. Il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, j'ai encore ces trois choses. J'ai le temps, j'ai la liberté, j'ai la grâce du bon Dieu. Cette voie sur laquelle l'aveugle suit notre Seigneur sur le chemin, Saint Jérôme le fait remarquer, cette voie, c'est celle qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Donc notre Seigneur nous dit, il parle de « Je suis la voie, la vérité et la vie ». La voie, c'est le chemin, une voie étroite qui conduit sur les hauteurs escarpées de Jérusalem et de Béthanie, sur le mont des Oliviers, qui est la montagne de la lumière et de la consolation. Donc d'abord passer par le Golgotha pour pouvoir arriver à la résurrection de notre Seigneur. Mais on ne peut pas aller à la résurrection, il n'y a pas de raccourci. Pour passer directement à la résurrection, il faut passer par le Golgotha. Ensuite, page 34 ou 33, selon le polycopie que vous utilisez, parce que j'ai fait des corrections, j'ai aperçu... Faisant mes corrections, qu'il y avait certains passages qui avaient été doublés, il y avait des doublons, donc j'ai supprimé les doublons, maintenant c'est en page 33. Voilà la dernière phrase des pères. Notre Seigneur est la voie étroite qui conduit sur les hauteurs de Jérusalem, au mont des Oliviers, qui est la montagne de la lumière et de la consolation qui mène à Sion et à Jérusalem céleste. L'aveugle voit et suit le Christ, car celui qui a bien compris la vie du Christ doit la suivre et l'imiter par ses œuvres. Donc, nous pouvons, nous aussi, faire exactement la même chose. Nous aussi, nous pouvons être guéris si nous avons le courage d'appeler notre Seigneur Jésus-Christ, de nous dresser sur notre séant, de sauter Et suivre notre Seigneur Jésus-Christ, à s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, il vint en sautant vers Jésus, nous dit l'évangile au verset 50, et à ce moment-là, demander à notre Seigneur, Seigneur, que je vois. Et notre bon Dieu va ouvrir les yeux de notre âme pour une bonne confession générale, peut-être, avant si c'est nécessaire, avant la fête de Pâques. Nous allons bientôt arriver au temps de la Passion. Et puis, si le bon Dieu le veut, encore une fois, s'il le veut, et uniquement s'il le veut, il guérira aussi notre corps. Mais ce qui est important, c'est la guérison de l'âme. Alors, mes bien chers frères, nous avons, Dieu aidant, terminé maintenant le fichier des chapitres 6 à 10. Donc, la prochaine fois, nous commençons un nouveau fichier. Le fichier qui va contenir les chapitres 11 à 16, donc toute la deuxième partie, la dernière partie de l'évangile selon saint Marc. Donc nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.